Cause commune. Cause commune, c'est tous les mois sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Eh bien bonjour, vous êtes donc dans Cause commune. Cause commune, c'est une émission, comme l'intitulé le dit, une émission collective de plusieurs animateurs de Fréquence Paris Pluriel, puisqu'il y a Ludo de...
Mode d'emploi.
Mode d'emploi, donc c'est une émission contre le chômage et la précarité, sur...
Voilà, sur le chômage, contre pour...
Contre aussi, ouais. Et donc c'est le vendredi.
C'est le vendredi de 20h30 à 21h30.
Il y a Gianni et Nicole qui font partie de Vive la Sociale, donc c'est une émission...
Si on parle de tous les méchants qui sont pas qui cherchent à faire quelque chose contre le système, pour dire les choses de façon brève.
Les luttes sociales, qui donnent la parole aux acteurs des luttes sociales.
Voilà.
Donc Gianni et Nicole, voilà, et moi-même qui anime l'actu des luttes tous les jours de 12h30 jusqu'à 14h. Donc comment on peut définir le thème de l'émission de ce soir? On avait envie de parler de la pauvreté.
Oui, pas de la pauvreté en soi, quand même. Non.
Vas-y, non, parce qu'on voulait pas faire un truc victimiste où on allait faire le défilé de toute la pauvreté, une énumération non exhaustive de tout ce qui pouvait être la pauvreté. On avait envie de parler effectivement de comment le système aujourd'hui provoque de plus en plus de pauvreté. Alors la pauvreté, peut-être, il faudra la définir. On va le faire un peu ce soir. C'est un peu une impro, hein. À la fois, on a un peu travaillé, mais bon, on n'a pas l'habitude de faire des émissions ensemble. Donc, bon, voilà, on se lance après tout. Mais on avait aussi envie d'interroger le pourquoi aujourd'hui c'est difficile de se battre pour tous les dépossédés, les pauvres, les classes populaires, comme on pourrait les qualifier.
Se battre avec, tu veux dire.
Ouais.
Oui.
Avec et pour arriver à modifier un tant soit peu le rapport de force et faire valoir le fait que les choses changent, quoi.
Oui, ben justement pour abolir enfin la pauvreté.
Exactement. Voilà. Et donc on avait envie de commencer parce qu'on s'était dit quand même que il y avait eu des tournants comme ça un peu historiques et on avait envie de peut-être partir plus des années 80, il me semble. Et avec, entre autres, le début un peu de la fin, on va dire, de la lutte des classes, enfin, de, en tous les cas, enfin, se définir, en tous les cas. Non, non, pas la fin, pas du tout, c'est vrai, Gianni. Mais en tous les cas, de voir comment la lutte des classes s'est transformée un peu en charité, souvent, et on avait envie de prendre des exemples précis.
Et le traitement des pauvres comme un traitement spécifique, où il y a des segments de la population qui commence à être traitée de pauvres, d'exclus, de... Et alors, on a d'un côté les chômeurs, de l'autre côté le mal logement, de l'autre côté une autre tranche de la population à problème, qui devrait bénéficier, comme on dit, d'un truc spécifique, et de moins en moins... On voit des réactions collectives qui se mettent en place et qui posent les problèmes de fond de la société en tant que problème de fond de la société et pas en tant que problème d'un petit groupe spécifique qui vaudrait un petit peu de quelques miettes de plus, quoi.
Exactement. Et donc, on va peut-être commencer par... on s'était dit qu'on avait envie un petit peu d'aborder l'historique de l'arrivée du RMI.
Oui, tout à fait. En fait, il faut rappeler que le RMI arrive après une période de croissance continue du chômage depuis les années 70 et qu'on est en février 87 à peu près à 10% de la population active au chômage. Ça représente 2 800 000 à peu près de personnes. Et c'est continu hein, depuis le premier et le deuxième choc pétrolier. Et donc il y aura une légère décrue sous la période de Chirac. Donc il faut le dire, hein, c'est-à-dire que Chirac a fait mieux que les socialistes.
Est-ce que c'est parce qu'il a traficoté les chiffres, par exemple ?
Alors, pas à cette époque-là, en tout cas. On pourra revenir plus tard, si tu veux, sur le traficotage des chiffres après. Mais à cette époque-là, non, ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a mis en place la flexibilité, donc au prix d'un passage en force contre les syndicats. Et puis il a surtout supprimé l'autorisation administrative de licenciement, qui était une réclamation du patronat, hein, à corps et à cri. Voilà, parce que ça allait créer je sais pas combien d'emplois supplémentaires qui n'ont jamais été créés, mais de fait, il y a eu une légère baisse du chômage. Et puis Mitterrand, bon bah, était toujours au pouvoir. Ils se sont effectivement affrontés. C'était la première élection peut-être où non seulement ils s'affrontaient sur le chômage, mais aussi sur la pauvreté. Puisqu'entre-temps, il y avait eu la création des Restos du Cœur de Coluche. Et donc la pauvreté devenait un enjeu électoral, mais c'était un enjeu à la marge du chômage. Et c'est ça qui est intéressant.
Qui allait faire mieux ?
Voilà.
Qui allait faire moins de chômage ?
C'est intéressant de se rappeler justement de cet argument qui a servi pour l'abolition de l'autorisation administrative de licenciement, parce que c'est un argument qui revient de façon récurrente. Évidemment, dans les discours émanant du MEDEF ou des patrons en général, mais aussi de plus en plus des gouvernements. Parce que pour défendre l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire en sorte que les patrons n'aient pas peur d'embaucher. Et le fait qu'ils ne pouvaient pas se séparer de leurs employés, qui étaient une bande de feignants, comme tout le monde sait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh ben, finalement, ils n'embauchaient pas parce que c'était trop difficile de les licencier si l'entreprise n'allait pas bien. Donc, on a éliminé l'autorisation administrative de licenciement sur la base de cet argument. Évidemment, ça n'a pas donné beaucoup plus d'embauches, mais c'est revenu au fur et à mesure, jusqu'à nos jours, où on a inventé la séparation à l'amiable entre le salarié et son patron, mis sur un pied d'égalité, bien entendu,
puisque cela, oui.
C'est très républicain, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui fait que, finalement, le renard se sépare de la poule qu'il est en train de coquer, tout simplement, en lui donnant un petit coup de patte en disant bon, mais là je suis rassasié avec ce type-là et il faut que je croque d'autres, justement il faut qu'il travaille plus.
Alors nous on met beaucoup l'accent dans notre émission sur le fait que c'est évidemment le chômage qui permet toutes ces modifications, tous ces changements, et c'est notamment la casse industrielle des années 83-84, donc initiée toujours par les socialistes, notamment de la sidérurgie et des chantiers navaux, qui a vraiment changé le profil des salariés. Il y a eu des grandes modifications capitalistiques, mais un des aspects, ça a été aussi la naissance des emplois de service. On sait par exemple que Pierre Bérégovoy a fait des pieds et des mains pour faire venir le TGV à Lille, pour construire une espèce de centre-ville où il ferait venir tous les services aux entreprises. Et la montée des emplois de service, ça s'accompagne automatiquement d'une forme de précarité. Et c'est la marque en fait des 20 ou des 15-20 dernières années, c'est-à-dire la montée, y compris dans les pays anglo-saxons, et avant tout dans les pays anglo-saxons, d'un emploi qui est complètement précaire, qui s'accompagne, alors là, pour le coup, de problèmes de logement qui sont terribles, c'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent et qui sont sans domicile fixe, et qui fait que l'État vient à la rescousse avec une allocation complémentaire, ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il institutionnalise le fait que, l'économie fonctionne comme ça maintenant. Et que, voilà. Et donc, le RMI n'était pas conçu comme ça au départ, mais c'est ce qu'il est devenu avec le RSA, puisque le RSA, vraiment, est fait au départ pour les travailleurs précaires, et pour leur donner un petit complément, alors c'est une centaine d'euros, mais contre un contrôle social qui est ahurissant. Ils doivent remplir des formulaires où ils doivent déclarer leur épargne, déclarer limite les revenus de leurs parents, déclarer sur l'honneur que leurs biens, ils ont... C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils l'ont signé, la CAF est tout à fait en mesure de leur dire « Monsieur, vous avez signé ce papier, si la déclaration est fausse, je me réserve le droit de, de vous poursuivre ou de vous retirer ce que vous avez. Donc il y a une il y a comme ça une prise en charge de la précarité et par l'État et une institutionnalisation par l'État.
Bah oui, et du point de vue du patron, cette histoire de institutionnalisation du RSA est tout à fait intéressante parce que finalement, puisque le chômeur, le demandeur d'emploi a déjà un minimum, bah on peut baisser le salaire, on peut baisser ce qui est à la charge du patron et donc augmenter notre compétitivité. Bah voilà, donc pourquoi il y aurait un patron qui s'en priverait? Ils le font tous. Bah voilà, il n'y a pas de patron bienfaiteur de l'humanité. Ils sont dans une concurrence effrénée les uns avec les autres. Et comme il y a un effet d'aubaine pour l'un, bah il y a un effet d'aubaine pour son concurrent. Ce qui fait que bah ce sont les ex-chômeurs et maintenant précaires et sous-payés qui payent les pots cassés de notre concurrence retrouvée.
C'est vrai, mais il faut aussi préciser qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'actionnariat dans les entreprises, ce qu'on sait bien, et c'est, on n'a plus affaire aux petits patrons qui on peut gentiment faire la guerre. C'était un peu la lutte des classes. Bon, il y avait ce côté sympathique, c'est que c'était structurant. C'est que les syndicalistes, ils étaient là. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait une solidarité en fait entre ouvriers. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire la grève, on va, voilà. Donc il y avait un côté militant qui...
Tu parles de tout ça comme d'un jeu.
Non, c'est pas un jeu, mais on a rencontré des syndicalistes qui étaient vraiment dans cette espèce de construction. Il y avait un effet socialisant qui est attaché.
Il y avait aussi une, je pense, une conscience beaucoup plus claire de l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi était visible, il y avait le patron d'un côté avec des rapports de classe beaucoup beaucoup plus définis, avec d'un côté les patrons, de l'autre côté des salariés, et qui se battaient pour des points de vue complètement antagonistes. Il n'y avait pas de possibilité de s'arranger, etc. Et c'est vrai qu'avec en fait l'arrivée du chômage de masse fait qu'il y a une compétition entre travailleurs, et forcément, et on l'a vu, c'était de toute manière dès l'arrivée du chômage de masse, tout de suite ça a été clair que les salaires allaient baisser et que le travail allait être beaucoup plus prenant, beaucoup plus dur, et qu'il allait avoir une compétition comme ça entre les salariés, entre les ouvriers, les travailleurs. Mais c'est vrai que le fait de proposer aux travailleurs la possibilité d'avoir une petite part du marché, de devenir, et puis ça, je pense que ça a été aussi avec le fait de devenir petit propriétaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait partie des possédants, on a quelque chose à défendre, notre petit pavillon, notre petit télécouleur, notre petit, etc.
Notre crédit
surtout. Et puis, nos petites parts d'action. Il y a beaucoup de gens assez simples qui ont pris des actions dans
la
différentes... par exemple, qui se sont fait arnaquer royalement, joyeusement, n'est-ce pas? Et du coup, ils avaient l'impression de pas participer à cette grande expansion du marché capitaliste et d'en avoir quelque part un peu leur petite part, quoi. Et souvent, d'ailleurs, on entend maintenant, alors qu'avant c'était complètement impensable, nous avons fait, en parlant de l'entreprise. Un simple employé, ouvrier parle de on. Comme s'il faisait partie de la boîte au même titre que le patron ou les cadres, etc. Ce qui était complètement impensable il y a encore 25 ans, quoi.
Moi, je rappellerai aussi que l'éventail ne s'est pas élargi seulement du côté de l'intéressement, hein, la tentative de faire en sorte que les salariés s'impliquent plus dans la boîte. Mais il s'élargit aussi dans l'utilisation de pans de précarité qu'autrefois n'existaient pas. Par exemple, l'utilisation des sans-papiers. L'invention même du sans-papier, qui autrefois n'existait pas. Il était simplement quelqu'un qui était arrivé, qui travaillait. Et au fur et à mesure, on a inventé la figure d'abord du sans-papier et ensuite du délinquant, qui est délinquant simplement parce qu'il n'a pas de papier. Et en tant que délinquant, il doit être emprisonné, expulsé, viré, soumis à toutes les tracasseries possibles et imaginables, et évidemment dans une condition de chantage total vis-à-vis de son patron, et qui devient aussi, par ce simple fait, un poids vers le bas, qui tire vers le bas l'ensemble des salaires. Parce que le patron se dit et te dit... si toi tu pouvais pas le faire ce boulot,
il y en a 50 qui attendent dehors.
Donc il y a cet aspect des choses, qu'il faut pas oublier. Et par rapport à
je voulais juste, oui. Excuse-moi, aller dans ton sens en disant que avant un étranger qui arrivait en France, qui était souvent d'ailleurs que les patrons allaient chercher dans leur village, avait quand ils arrivaient des cartes de 10 ans renouvelables. Bon, on voit aujourd'hui qu'on est très très loin de cette situation qui était loin d'être tout à fait rose, hein, parce qu'il y avait des foyers, enfin il y en a toujours, etc. Mais quand même qui faisait que les travailleurs étrangers étaient moins précaires qu'aujourd'hui.
Et je pense qu'il faut le mettre en relation avec la logique économique et sociale d'ensemble qui existe dans le pays et même en Europe, et pas le mettre sur le compte de la méchanceté de tel ou tel gouvernement, parce que d'abord il y a une certaine cohérence dans le traitement des étrangers, dans leur criminalisation au fur et à mesure, et il faut dire que les gouvernements de droite et de gauche se sont bien relayés là-dessus.
Et je dirais même que ça a commencé par les gouvernements de gauche quand même, parce qu'il faut pas oublier que avec l'arrivée en 80, c'est le passage au pouvoir des socialistes avec tout l'espoir que ça pouvait porter pour les plus crédules. Et du coup, voilà, la gauche était au pouvoir, donc forcément, il y avait plus besoin. Il faut se rappeler quand même ces périodes-là où l'ensemble des militants sont rentrés chez eux, ont beaucoup attendu de la classe politique en déléguant leur pouvoir au salon, aux commissions de travail, etc. Et ont beaucoup attendu en se démobilisant complètement des associations, des syndicats, et puis tout ce qui pouvait créer des rapports de force.
On les a vus avec Cresson.
Tout à fait. Donc c'est bien la gauche quand même qui a permis aussi cette réalité-là. Peut-être que la droite n'aurait pas pu le faire vu l'état de mobilisation qu'il pouvait y avoir encore à cette période-là.
Oui, ce qui nous ramène à ce que disait Dodo tout à l'heure, quand il y avait, tu disais, des syndicalistes. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait éviter d'inverser la cause et les faits. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un degré de mobilisation chez les ouvriers qui était extrêmement important, et vu qu'il y avait ce degré de mobilisation, les syndicalistes aussi suivaient le mouvement. Et entre autres, il y avait un taux de syndicalisation plus élevé, etc. Mais bon, ça, c'était des effets du niveau de mobilisation dans les luttes qui existaient à l'époque.
Parce que il me semble aussi quand même que dans l'industrie, il y a eu un changement important, c'est que l'industrie s'est réorganisée et elle a quand même fait rentrer dans ses actionnaires ce qu'on appelle des acteurs institutionnels, des fonds de pension, qui pour le coup ont exigé des taux de rentabilité qui étaient tellement énormes qu'on a été capable à la fois de virer des gens, ça c'est sûr, mais en plus d'individualiser leurs tâches au travail, c'est-à-dire via la précarité, via leurs conditions de travail, ce qui a nuit en définitive au travail militant et à l'impression d'être dans une communauté de vie et de destin, puisque évidemment si vous faites un CDD de 3 mois, que vous êtes jeté dehors, que vous êtes repris 6 mois après, c'est un peu compliqué de se sentir appartenir ou de s'affilier à un syndicat. Bon, c'est des choses basiques, mais ce qui est important, c'est que la perception pour le salarié, c'est que le capitalisme est devenu anonyme dans les grandes entreprises, et que il faut, et qu'au vu des conditions de travail des gens et des conditions d'emploi, de statut, il devient très compliqué de se mobiliser comme on le faisait auparavant. Il y a cette individualisation des parcours qu'on voit aussi dans le traitement social du chômage ou dans le traitement social du RMI, qui rend la lutte beaucoup plus difficile et la reprise de liens.
Ouais, l'intérêt commun, moins détectable. J'ai retrouvé une petite phrase quand même de Mauroy pour illustrer ce qu'on était en train de dire. Mauroy, à l'époque Premier ministre de Mitterrand en 81, qui avait dit « Les chefs d'entreprise comprendront-ils que la gauche au pouvoir apporte aux entrepreneurs ce que la droite n'a jamais pu leur assurer, un climat social de négociation et non d'affrontement, une planification qui balise l'avenir ?» Voilà, c'était quand même vraiment tout
beau.
À fait clair. C'est pas beau de tout ça. On met un petit peu de musique.
Quelque part en province, un soir de grande résolution.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, c'est Cause Commune, l'émission collective.
Avec différents animateurs de Fréquence Paris Pluriel.
Voilà, mais il faut quand même rappeler quelles sont les émissions, donc est présente ici Nadia.
L'actu des luttes, vive la sociale et mode d'emploi pour ce soir.
Merci.
Et puis on peut le dire, il y a quand même l'équipe des bras cassés représentée par Joël à la technique. Bah oui, zéro hebdo, tout à fait.
Oui, on voulait revenir quand même, avant de poursuivre cette émission, sur la création du revenu minimum d'insertion. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois qu'on créait une allocation qui n'était pas l'allocation chômage, et donc qui était à la marge des indemnisés du chômage et qui concernait principalement les chômeurs en fin de droit qui étaient de plus en plus nombreux. Et on voulait remédier à ce qu'on a appelé les nouveaux pauvres, hein, ou la montée d'un quart monde. Bon, c'était tout le débat des années 80 avec les Restos du Cœur. Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tenté de créer une allocation unique qui mêlait à la fois des gens qui n'avaient pas de problème d'emploi, c'est-à-dire qui avaient des bonnes raisons de ne pas travailler. Donc je prends au hasard des femmes célibataires avec enfants. C'est un peu l'archétype aujourd'hui d'une personne qui ayant un enfant à garder ne peut pas travailler parce que ça va lui coûter plus cher.
Vas-y, explique ça à une assistante sociale. Je suis sûr elle va t'écouter, elle va te comprendre.
Bon, et puis d'autre part, des chômeurs en fin de droit qui étaient vraiment concernés donc par la crise. Et cette allocation en fait a connu tout de suite une résonance, enfin un succès phénoménal. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans de sa création, on a eu 500 000 personnes qui était inscrite, et à peu près moins de 10 ans après, c'était en 96, on a eu 1 million de personnes, on a passé la barre des 1 million, et aujourd'hui on est à 1 million 200 000 personnes qui sont bénéficiaires du RSA, ex-RMI, et d'après les études qui datent donc de 2000, on estime en fait que 15% déjà en 2001-2002, on estime que 15% des gens qui étaient indemnisés au RMI avaient retrouvé un emploi stable et définitif, et que 50% d'entre eux étaient passés un moment par des contrats à temps partiel et des contrats précaires et qui retombaient en fait dans le dispositif RMI. Et donc on a fini par déduire que c'était une trappe en fait à pauvreté, c'est-à-dire qu'une partie des RMIs ne retrouvait jamais de travail pour des tas de raisons, mais qui s'enfonçaient dans la pauvreté.
Combien d'années de distance ils ont fait ce genre de calcul ?
Alors, c'était depuis la création du RMI, puisqu'il y a quand même des gens qui sont depuis plus de 10 ans au RMI. Donc, ils ont fait cette étude en 2002. C'est une des seules qui a été faite sur le sujet, et elle remontait à la création. Sur un moment T, un instant T de...
C'est 83, la création ?
Non, c'est 89.
6, 9, d'accord.
89. Par le gouvernement Rocard, en fait, décembre 89. Et donc là, on va apparaître une catégorie de gens qui ne sont plus une force de travail, en fait. Et surtout, on a prétendu que ces gens-là allaient être insérés. C'était le I de l'insertion, qu'ils étaient réinsérables.
Dans le travail.
Voilà, dans le travail. Mais dans le dispositif du RMI prévoyait aussi des aides au logement, le contrat d'insertion qui permettait aussi de fournir des aides à des personnes qui ne pouvaient pas travailler pour des raisons qui n'étaient pas directement liées à leur chômage, en fait, hein. Donc en l'occurrence le fait d'avoir un enfant à garder, etc. Et donc on s'est aperçu que le RMI n'était pas un outil à insertion, et notre brillant gouvernement actuel est revenu à une politique du traitement du RMI telle qu'on traite les chômeurs. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a incité les RMistes à ne pas s'inscrire à l'NPE, puis on a dit bah oui, mais ça fausse les statistiques, bah oui, mais c'est des gens-là, après tout, comme les autres, qu'on doit embaucher. Et donc on a généraliser la méthode de sanction qu'on appliquait aux chômeurs ou aux bénéficiaires du RSA. Donc aujourd'hui, quand vous êtes bénéficiaire du RSA, vous avez l'obligation de vous inscrire à la NPE, et ce qui signifie qu'en fait, vous pouvez recevoir des offres ou être convoqué à des entretiens, et si vous n'y répondez pas, vous pouvez perdre une partie du bénéfice de votre RMI.
Mais est-ce que ça veut dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de pauvres qui soient exemptés du devoir de bosser ?
Eh ben, l'administration repousse le, cette espèce de d'aspect-là, mais c'est la philosophie, en fait, la philosophie du projet gouvernemental du RSA, puisque le RSA, c'est des droits et des devoirs. Et avec l'inscription à la NPE, en théorie, il est tout à fait possible que demain, n'importe qui reçoive des convocations et des comptes à rendre à la NPE. En tout cas.
J'ai envie de dire, bon alors on se rend compte quand même que dans les années 80, il y a une situation qui s'installe, on part du principe qu'elle n'évoluera pas et qu'il va y avoir un pan de chômeurs suffisamment important pour pas les laisser sans revenus, puisque ça pourrait quand même être le ferment d'une explosion sociale éventuellement. Donc l'État concède une petite somme qui permet à peine de survivre. Et en plus, alors on se rend compte qu'il y a ça, c'est-à-dire que déjà là, on est quand même dans une régression considérable, c'est-à-dire voilà, on part du principe que les choses ne changeront pas et qu'il va y avoir une part des gens exclus des richesses. Et souvent, on se rend compte dans nos sociétés que c'est souvent le travail qui ouvre les droits. Différents, etc. Donc quand on en est exclu, on est tous à ramer, à essayer de se démerder et à survivre avec et le peu d'argent et le peu de reconnaissance et socialement, enfin oui, le fait de pas être connu. Alors après, là, on a assisté ces dernières années au fait que c'était plus un droit, mais ni un dû, hein, c'est quand même la moindre des choses. On est dans une société qui a, entre autres, créé le chômage de masse, qui donc s'est démerdé avec ça tant bien que mal en donnant quelques miettes aux gens qui allait être exclu. Et après, on nous dit finalement, il va falloir quand même montrer patte blanche, il va falloir quand même vous battre un petit peu pour essayer d'avoir un petit peu de travail précaire, que ce volant de travail précaire, il va falloir se battre pour l'avoir, c'est-à-dire faire rentrer les chômeurs dans cette espèce de bataille de compétitivité. Sans ça, ils pourraient voir leurs droits ne plus exister. Et donc c'est pour ça que là il y a eu un glissement ces dernières années. Bon, il y a toujours eu cette idée que le chômeur c'était le feignant, celui qui essayait de rien faire, de gratter les subsides de l'État, de vivre sur le dos des travailleurs, etc. Bon, il y a eu toujours ce discours un petit peu, mais là ces dernières années pratiquement, si on se rend pas au rendez-vous, si on va pas dans des formations complètement bidons et tout le monde le sait, si on fait pas toutes ces choses très humiliantes, très avilissantes et qu'on ne subit pas le contrôle social, eh ben on peut voir ce peu d'argent, tellement peu d'argent, être retiré. Donc on est quand même déjà dans une autre logique, quoi.
Et on rentre en plein dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle social du chômeur comme poids qui tire vers le bas l'ensemble des salaires. Parce que ce que tu disais là, c'est que le chômeur était appelé à faire quand on dit il doit se battre pour avoir un salaire inférieur à ceux qui sont actuellement la norme, et ensuite il y aura d'autres qui se battront encore plus pour avoir un salaire encore inférieur, et ainsi de suite. Et évidemment, c'est pas simplement le salaire nominal mensuel. Il y a tout un tas de formes de temps de travail partiel, d'articulation, de formes de mobilité, de flexibilité, de choses. Là, il faut dire que les patrons ont eu une inventivité ces dernières années.
D'autant plus inventif qu'il y a très très peu de réactions face à eux. Donc, ils ont quand même un boulevard de créativité devant eux. Ils sont limite.
Mais on a enclenché justement un mécanisme qui permet qu'il n'y ait pas de réaction. Parce que plus il y a de divisions, plus il y a de fragmentation, moins il y a de possibilités de réaction. D'ailleurs, si on se rappelle le moment des chômeurs de 97-98, chômeurs et précaires, c'était relativement une exception par rapport à ce qui s'est passé dans les 10 ans qui ont précédé et les 15 ans qui ont suivi.
Nous, on a constaté qu'au niveau de l'engagement des militants chômeurs, on a constaté un phénomène assez curieux, c'est que finalement, c'est plutôt les gens qui ont, 40, 45 ans, qui découvrent le chômage après avoir eu une vie active pleines et bien remplies et d'avoir jamais eu de problème dans leur vie, qui tout d'un coup découvrent le militantisme qui va avec, parce que ils découvrent que leur vie risque de ne pas rebondir. Et en fait, ce qui donne, pour revenir sur 95, c'est que chaque génération, chaque crise crée son lot de militants chômeurs, j'ai envie de dire, donc en 95, en 2000, au moment des recalculés, en 2002-2003, et de gens qui ont été poussés par la sortie. Pour les jeunes, c'est différent. Il est très compliqué de s'identifier dans la vie en tant que chômeur, et de se dire je suis chômeur et je me bats en tant que chômeur, et donc de militer dans les associations de chômeurs. Et par contre, les jeunes ont longtemps eu tendance à utiliser tous les dispositifs, donc type RMI, pour rebondir en fait, hein, sur ce en attendant l'âge d'être employé, ce qui fait qu'il y a effectivement on oppose quand même la politique social-démocrate d'aide individualisée aux différentes catégories de la population a tendance à opposer les catégories entre elles et à rendre toute lutte commune assez difficile, mais ça peut changer.
Oui, un élément important, à mes yeux, hein, je me trompe peut-être, mais c'est pas un hasard que ça soit cette tranche d'âge dont tu parles. C'est aussi des gens qui connaissent la différence, qui ont vécu une situation de travail et donc aussi de possibilité de se regrouper dans le travail et de se battre collectivement. Et ils n'ont pas oublié ça.
Il y a ça, et je pense aussi il y a le fait que quand au bout d'un moment, quand on commence à vivre quelque chose d'insupportable, il y a forcément une réaction de colère, de révolte, qui petit à petit, au fur et à mesure des mois, des semaines, des années qui passent, qui peuvent se transformer en acceptation malgré tout, quoi. Je veux dire, c'est plus difficile quand on est depuis des années dans une situation ou que peut-être des fois on est les enfants déjà de chômeurs ou de précaires, d'imaginer, enfin, d'avoir cette révolte en soi, malheureusement.
C'est surtout plus difficile quand on a été quand même assez conditionné, ce qui est par exemple mon cas, c'est-à-dire dans toutes les années 70. Moi, je dis, je suis d'une génération dont la courbe de croissance a suivi la courbe du chômage. L'expression n'est pas de moi, mais c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'on a subi un espèce de conditionnement des médias qui nous disent attention, vous devez échapper au chômage de masse, vous devez échapper au chômage de masse, regardez en face, il y a des gens qui bloquent. Et c'est la CGT. Quand on est lycéen, on peut avoir cette perception-là de mouvements de gauche qui sont sur des combats défensifs. Et étant sur des combats défensifs, surtout dans les années 80, parce que c'était les années fric, les années réussite, la gauche étant sur des combats défensifs, aussi elle a tendance à ne plus être attractive pour la jeunesse par rapport aux années 70.
Moi, j'ai plus l'impression que la gauche, d'une manière générale, avec des vieux concepts ouvriéristes issus plutôt des années précédentes, n'ont pas su intégrer les nouvelles donnes du capitalisme en intégrant la question de la précarité, du chômage, de la délinquance, de la psychiatrisation, de tous ces phénomènes qui était engendré par la société capitaliste et qui restait sur des bases très ouvriéristes, avec des travailleurs stables, etc. Et qui a aussi eu du mal, elles ont toujours du mal d'ailleurs, à prendre en compte ces nouvelles donnes du système capitaliste.
Moi j'ai l'impression que c'est pas pour te contredire.
Je t'en prie, tu peux. Hein.
Je voudrais pas te vexer. Hein.
Mais vas-y.
Mais cette histoire de discours ouvriériste, c'était un discours. L'histoire de la défense du poste stable, la vie, comme au Japon, hein, la mythologie du poste stable. Mais c'était des beaux discours, parce que dans la pratique, ils ont tranquillement accepté la création d'un volant de précarité.
Tu ne me fâches pas, c'est pas contradictoire.
Bah oui.
Justement, la CGT,
dans le concret des choses. Non seulement ils acceptaient ça, mais il y avait les gens à l'intérieur des boîtes qui structuraient ça, qui tu travaillais côte à côte avec des précaires et finalement bah tu t'intéressais pas du tout à leur sort. Hein.
Tu parles du Japon, mais on peut dire aussi l'Allemagne, mais c'est peut-être des pays où il y a des traditions où les syndicats accompagnent finalement les transformations. Mais il me semble qu'en 87,
chez nous, ils sont pas un reste, hein, ils les ont bien accompagnés.
Oui, sans doute. Mais en 87, au moment des débats sur la flexibilité, la CGT a fait barrage et la base de la CFDT à l'époque, qui était toujours sur la CFDT, qui était pour la fermeture de la sidérurgie, entre autres, c'est la base de la CFDT qui a repoussé l'accord sur la flexibilité. Donc il y a quand même des tentatives syndicales minimes peut-être, mais au début d'inverser le mouvement. Seulement en France, il faut se souvenir que c'était les socialistes qui étaient au pouvoir et qu'on avait à front renversé des syndicats qui avaient élu un gouvernement contre lesquels ils devaient se battre, et un gouvernement qui au passage a fait adopter toutes les mesures les plus capitalistes de cette époque-là quand même. En France, on a un petit problème quand même avec les syndicats, c'est qu'on est fâché avec les gouvernements de gauche, mais on peut pas. On est toujours dans cette expectative.
Tu dis en France, mais ailleurs en Europe, rien que pour rester sur le seuil de notre maison commune, mais c'est pas très différent. Hein. Regarde en Grèce, qui est-ce qui fait les réformes demandées par. Les camarades du FMI et
qui pas camarades
au risque de l'avoir comme prochain président hein.
Camarade
ou encore en Espagne la flexibilisation du marché du travail ce sont toujours les mêmes hein. Bon c'est qu'il y avait Ben Ali il y a encore quelques semaines à l'intérieur de l'Internationale socialiste.
C'est dingue ça. Ouais tout à fait, on oublie souvent.
Qu'est-ce que tu peux préciser quand tu dis que la CGT a fait barrage contre les mesures de flexibilité. À quoi tu fais allusion?
Alors c'était l'accord. Je me souviens, c'était c'était le gouvernement socialiste qui avait adopté simplement le fait qu'on puisse c'est de la flexibilité, qu'on puisse employer des gens à des moments de façon plus importante, qui dépassait le quota horaire et puis le réduire les années après. C'était Krasuki qui à l'époque lui avait refusé, le gouvernement voulait passer en force et il est passé en force, mais à l'époque des négociations certains syndicats l'avaient même signé hein, mais au dernier moment avaient dû se défausser. Donc la CFDT c'était juste dans les années 80, c'était encore quand les socialistes étaient au pouvoir.
Avant 86. En fait, les grandes mesures de flexibilité elles sont passées avec la loi sur les 35 heures en fait. Et là
en 2000,
elles ont pas soulevé grand. Elles ont pas soulevé grande
opposition. C'est parce qu'on a présenté ça comme un acquis social. Tout à fait pareil. C'est parce qu'on l'a présenté comme un acquis social.
Non, mais c'était, ça il faut jamais l'oublier, une loi d'annualisation, d'aménagement et de réduction du temps de travail. Mais d'aménagement d'abord.
Oui, non, je parle des premières mesures de 80, c'était en 86, hein, c'était avant 86, en 85, et c'était les premières tentatives dans l'industrie justement d'annualiser le temps de travail, de le modifier, mais pas de réduire le temps de travail. À l'époque, on n'en parlait pas encore.
Ou alors c'était des dangereux extrémistes qui parlaient de réduire à 32 heures et qui étaient porteurs de slogans aussi subversifs que travailler tous, travailler moins pour travailler tous et surtout travailler tous pour travailler moins.
Mais il faut préciser quand même que cette histoire de réduction du temps de travail, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est quelque chose de très ambigu parce qu'on présente ça comme un acquis social, mais il faut savoir qu'en Allemagne, au moment de la crise, on a utilisé la baisse du temps de travail pour limiter le chômage, en échange d'une réduction du salaire. Aujourd'hui, il y a des boîtes, donc dans les services, des cabinets d'architectes, où, crise faisant, on impose aux employés de travailler à 35 heures. Alors je rassure, il n'y a pas de RTT derrière, parce que c'est des boîtes patrimoniales.
Mais quand même, il faut se rappeler de quand c'est arrivé cette histoire. C'est arrivé juste après
98.
Il y avait eu des gros mouvements quand même. Et c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, pour résoudre aussi la question sociale, enfin des gens qui étaient dans la rue et qui réclamaient. Enfin, à l'époque, il y avait les chômeurs, il y avait eu avant 95 la grève sur les retraites des cheminots, etc. Enfin, il y avait quand même un peu d'ébullition. Et les Verts, les socialistes sont arrivés avec cette histoire de réduction du temps de travail en disant oh là là, attendez, mais on va réduire le temps de travail, ça créera de l'emploi. Bon, après,
un appel d'air.
Un appel d'air, sûrement. Et force est de constater peu de temps après, de toute manière, que ça n'a rien créé du tout, à part des conditions de travail où les gens ont dû travailler à peu près, ont dû faire la même somme de travail en moins de temps, quoi.
En revanche, il y a eu la productivité des salariés français,
ouais, c'est ça, hein, qui a monté,
qui est devenue
la
première au monde.
Ouais.
Et ça, nos amis les patrons ont tendance à l'oublier. Hein.
Il faut dire aussi que les 35 heures étaient faites pour les cadres au départ. Hein,
arrête de dire nos amis les patrons, putain, nos camarades de je sais pas quoi.
Oui, je veux dire que c'était les 35 heures, c'était pour les gens qui étaient privilégiés déjà. Hein. C'est-à-dire que les informaticiens qui étaient dans des boîtes, qui avaient des intercontrats, des moments de passage à vide, alors pour eux, on voyait tout à fait l'utilité de mettre des RTT. Et puis, les gens avaient des revenus quand même qui étaient suffisamment importants pour accepter relativement bien les 35 heures. Alors, c'était à l'inverse, ça aurait pu être fait aussi, et ça a été aussi fait pour les professions les plus pénibles, puisque dans le bâtiment, quand vous passez de 39 à 35, c'est quelque chose que vous sentez en termes de pénibilité, c'est quand même beaucoup moins difficile. Maintenant, c'est vrai que la contrepartie, et c'est Nicolas Sarkozy qui le dit, donc j'ai mes références, et il dit les 35 heures ont servi de prétexte à la modération salariale. C'est-à-dire que lui-même reconnaît que ses amis patrons ont utilisé les 35 heures pour ne pas augmenter les salaires, et ça pendant toute l'année, pendant toutes les années 2000.
Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus une poussée énorme vers des demandes d'augmentation de salaire, au moins de la part des syndicats.
Mais ça fait des années que les syndicats ne peuvent plus exiger que l'augmentation du SMIC, finalement. À part dans les entreprises ou dans les branches, mais au niveau gouvernemental, on ne peut plus imposer au niveau gouvernemental une hausse brutale des salaires, comme on l'a fait dans les années, enfin en 68.
Oui, sauf, et, justement,
surtout
fais bien
pas brutal, hein.
Tu fais bien de le dire, sauf s'il y a effectivement une pression suffisante pour imposer.
On peut imposer des baisses brutales, ça oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, la loi l'autorisait, permettait d'imposer au patron quand même. On était une forme de capitalisme d'État. On pouvait dire au patron, monsieur, vous allez augmenter vos salariés, vous allez les augmenter. Aujourd'hui, c'est en termes de mécanismes légaux. Il n'y a plus qu'un outil, c'est le SMIG. Et c'est pour ça que finalement, la montée du SMIG...
J'ai envie de dire quand même, peut-être, mais si tu veux, là, il y a presque une intégration de la défaite dans le discours. Dans le sens où, par exemple, en Guadeloupe, lors de la grève générale quand même qui a eu lieu l'année dernière, je suis désolée, ils ont quand même réussi, à force de lutte et grâce à la grève générale, entre autres, à imposer 200 euros d'augmentation. Bon, après, la grève générale s'arrêtant, effectivement, après, il y en a, ils ne l'ont pas fait. Donc, il faut pouvoir maintenir le rapport de force. Mais pour dire que les choses sont possibles quand on s'en donne les moyens. Quand même, Ludo.
Non, mais écoute, on ne demande qu'à voir un mouvement en Guadeloupe,
pas
ici, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu parles d'intégrer la chose, mais c'est aussi le but. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en rentrant dans le marché européen, on fait tomber les réglementations une à une, et notamment les réglementations du travail.
Mm-hmm,
parce que
bon,
la charte, enfin, là, l'Europe, là, le traité Europe, si on appliquait les normes européennes, on aurait peur. Hein. Je ne sais pas si vous êtes...
Tu veux dire que ce serait encore pire ?
Et ça serait, je ne sais pas si quand on voit l'état de l'Europe de l'Est, hein, les conditions de travail en Europe de l'Est, il y a de quoi se faire du souci dans ce qui risque de nous arriver. Et au nom de cette espèce d'état de fait de bah, c'est à un niveau européen, ça se passe, il y a une espèce de naturalisation de la contrainte économique qui fait tomber quelque part les résistances, puisqu'on n'a plus d'interlocuteur en fait. C'est ça le problème. On a du mal à avoir simplement à avoir des rapports normaux avec les syndicats, à avoir des rapports normaux avec les patrons, mais en plus on n'a plus un interlocuteur central sur lequel on peut faire pression, y compris quand on vote, en fait. C'est-à-dire qu'y compris quand on vote, on a des gens qui ne tiendront de toute façon pas leurs promesses et qui invoqueront l'Europe pour ne pas tenir leurs promesses. Alors ça paraît, je veux dire, c'est un lieu commun de dire ça. Et pourtant, c'est au cœur du fait que toute mobilisation tombe y compris des mobilisations électorales qui ont permis la victoire de Mitterrand en 81, par exemple. Et ça rend quand même le problème compliqué, ou en tout cas la mobilisation compliquée.
C'est vrai que ça serait une raison de plus pour, vu que tout le monde maintenant se méfie des prévinces électorales, de se battre directement et à la limite de descendre à la rue. Mm-hmm. C'est que on nous apprend de l'autre côté de la Méditerranée d'ailleurs.
Mais faut-il un bon encadrement pour ça? Et puis faut-il un pouvoir qui soit réellement autoritaire, qui autorise?
Bon encadrement, je sais pas, parce que pour l'instant il y a un très bon encadrement qui empêche pour l'instant la contestation, qui fonctionne très très bien. La contestation
dans la rue de façon très encadrée, comme on l'a vu à cet automne.
Ouais, avec des petites barrières autour, chacun dans son cortège. On a vu ça. On va peut-être mettre un peu de musique. Allez, alors on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et puis là l'idée c'est de donner un peu des chiffres, Ludo.
Oui, je voulais revenir donc sur le RMI, puisque on est finalement le nombre de RMI a peu augmenté au cours de ces dernières années. On est à peu près à 1 200 000 personnes. Ce qui par contre augmente en fait, c'est la précarité, et donc c'est le chiffre du chômage des personnes qui sont inscrits à Pôle emploi mais qui ont un travail précaire, c'est-à-dire que c'est un emploi précaire contraint, puisqu'on dit aujourd'hui qu'il y a à peu près 1,5 million de personnes qui sont en situation de précarité contrainte et qui sont inscrits à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'ils voudraient changer de travail, et ces gens-là sont très peu cités dans la communication gouvernementale sur le chômage, puisque le chômage, le gouvernement...
Il rentre pas dans les statistiques.
Il rentre dans les statistiques, ouais. Mais simplement, il faut... maintenant, c'est en fait, depuis la polémique de 2007, en fait, l'INSEE avait contesté les chiffres de Pôle emploi, et sa publication avait été suspendue. Et à la suite de ça, il y a eu une refonte des chiffres du chômage. Et maintenant, les journalistes prennent en compte les différentes catégories de chômeurs. Et donc, on a effectivement la catégorie totale où on est à 3 millions à peu près de chômeurs. Et puis, toutes les sous-catégories de gens qui travaillent moins de 78 heures. Donc, ça veut dire moins d'un mi-temps, plus de 78 heures. Les gens qui sont en formation... Mais ça veut dire qu'ils sont en formation temporairement, les gens qui bénéficient de contrats aidés, et on arrive à peu près, il faut compter à peu près 4,5 millions, voire 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, en fait, hein, tout compris. Et donc, ce qui, en fait, pour revenir sur le débat sur la pauvreté, ce qui fait la grande pauvreté aujourd'hui, c'est la précarité. C'est pas seulement le chômage, évidemment le chômage de masse, puisque le chômage de masse est important dans les catégories de longue durée. Avec la crise, on a des chiffres quand même assez effrayants. Plus de 3 ans, on a 300 000 personnes qui ont plus de 3 ans de chômage derrière eux, et on en a 800 000 qui sont entre 1 et 2 ans de chômage, hein, sur 3 millions. Bon, voilà, ça commence à faire un sacré paquet. Et en termes de précarité, on voit assez nettement dans les indicateurs que la baisse du niveau de vie vient principalement, l'augmentation de la pauvreté touche principalement ces catégories-là, d'où la création du RSA de Martin Hirsch, qui n'a pas changé forcément grand-chose.
Ouais, au contraire, même qui a complètement intégré cette question de précarité, et du coup les patrons s'en donnent à cœur joie pour proposer des quarts, des demi, des deux tiers de temps de travail, quoi.
Oui, alors c'est vrai qu'on a des annonces à Pôle emploi qui sont effarantes, quoi, qui sont effrayantes.
On vous propose 2h30 de travail par semaine.
Grâce au RSA.
Merci.
Voilà. Et je voulais finir sur le fait qu'un des choses qui pèse aussi énormément, c'est évidemment l'augmentation des loyers, on en parlera plus tard,
ouais.
Qui là rend pour le coup la pauvreté.
Mais tous les loyers, le gaz, enfin tout ce qui est important, l'électricité, on voit que l'essence, tout devient de plus en plus cher, et fait que on a de moins en moins les moyens de vivre correctement.
Et la pauvreté ne se résume pas aux chômeurs précaires, enfin au monde du travail. La pauvreté, c'est aussi, ça peut être aussi les vieux, c'est les jeunes, c'est certains foyers dans lesquels il n'y a pas de, oui, enfin, je veux dire,
il y a qu'un salaire minable.
Alors sur les seniors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que on dit que le taux de pauvreté reste stable parce que dans les années 70, la pauvreté des personnes âgées a diminué du fait de la mise en place des caisses de retraite. Or, avec les réformes successives de retraite et donc l'état du marché du travail, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les années à venir, on va avoir un taux de pauvreté des seniors qui va exploser. Si les gens n'ont pas eu la capacité de devenir propriétaires de leur logement, et s'ils vivent dans les centres-villes, ils pourront pas vivre. En fait, ils pourront pas payer leur loyer avec leur retraite et ils pourront pas assumer leurs besoins. Ils seront obligés de se délocaliser quelque part. Pour ceux qui ont encore une retraite, puisque dans les années à venir, les chômeurs sont vraiment très très concernés par le minimum vieillesse et par tout c'est pareil, hein, ce RSA bis qu'on va laisser aux vieux. Mm-mm.
Qu'est-ce qu'on fait ? On passe au logement ? L'idée, si tu veux, c'était plus...
De la pauvreté, des biens,
c'est le logement. Parce qu'il faut dire que quand même, à l'époque, on imaginait que le logement, la part du logement dans le revenu devait représenter à peu près 20% ou 30% du revenu. On est très très loin aujourd'hui du compte, puisque la plupart des loyers sont au moins la moitié, voire les deux tiers du salaire. Donc c'est ce qui aussi augmente la pauvreté. Les petits propriétaires, ou les grands d'ailleurs, eux se remplissent les poches allègrement grâce entre autres à l'État, hein, puisque rien n'est réglementé, bien au contraire. Alors moi j'avais envie de revenir sur l'expérience du comité des mal logés pour essayer de faire le lien à la fois sur cette question du logement et sur la lutte pour un droit au logement. Donc revenir sur cette sur ce comité. Donc c'est un comité qui en avril 87 donc le comité des mal logés réquisitionne deux appartements HLM de la ville de Paris. Et en mai 88, le comité mal logé réquisitionne 8 autres logements HLM. Cette action, suivie 15 jours plus tard de l'occupation de l'OP HLM de la ville de Paris, marque le départ d'une lutte pour le droit au logement des travailleurs. Donc en mai 90, les deux immeubles qui abritent les permanences du comité sont expulsés. Et donc à ce moment-là, il y a des dissensions qui existent à l'intérieur du comité des mal logés, puisqu'il y a deux tendances qui voient le jour. Il y a l'une qui prône la négociation sur la base d'un rapport de force à consolider. Alors j'ai envie de rajouter aussi que ce rapport de force, bien évidemment, il était créé par les demandeurs de logement, les mal logés eux-mêmes, c'est-à-dire ils essayaient de s'organiser entre eux pour demander un logement stable, hein, et pas un logement précaire. Et puis l'autre qui prône la soumission au gouvernement en cherchant à monnayer l'opposition à Chirac, c'est-à-dire essayer sur des bases électoralistes de ramener une partie de la gauche ou des associations liées à la gauche à cette lutte contre le mal logement. Alors le choc de la confrontation passé, les divisions ont refait surface et amplifié par l'intervention d'organisations politiques et d'autres dites anti-caritatives. Pardon. Alors arrive à ce moment-là une autre tendance, c'est le DAL. Alors le DAL, il est resté. Le comité mal logé n'existe plus, mais par contre le DAL existe toujours. Et vous l'aurez bien deviné, faisait partie de la deuxième tendance. Voilà. Donc le DAL aura mis un peu plus d'un an à revenir aux pratiques d'antan, en rupture desquelles le comité mal logé s'était constitué, c'est-à-dire en faisant accepter la précarité du logement, c'est-à-dire en acceptant les bidonvilles, les Algéco, les situations précaires, les baux glissants, les machins, les trucs, et surtout pas de pouvoir installer des locataires dans une situation stable correspondant à leur revenu. Donc c'était une période d'expansion du capital. L'interrogation là, parce que j'ai repris des documents donc édités entre autres par des gens qui avaient créé le comité des mal logés et qui disaient que dans les périodes d'expansion du capital, on peut obtenir des avantages pour les travailleurs parce que la bourgeoisie pouvait se permettre des concessions tout en se maintenant au pouvoir. Mais que là, dans cette nouvelle phase du capitalisme, c'est-à-dire complètement, on va dire, décomplexé, hein, puisque c'est un mot à la mode, et ben la cistanat et les pratiques condescendantes refont surface. Et dans l'apparition de la crise, on se retrouve face à une bourgeoisie qui non seulement n'a plus l'intention de céder, mais qui de plus attaque les avantages sociaux qui semblaient définitivement acquis. Dans ce contexte, les luttes ne seraient que pour le maintien de ces acquis. Plutôt que d'organiser une riposte à la hauteur de l'attaque les organisations réformistes passent à la soumission, cédant sans cesse aux impératifs de l'économie de marché et renvoyant leurs idées généreuses au placard. Donc voilà, ça c'est on voit arriver la charité contre le droit légitime. Nul besoin d'être un économiste éclairé pour comprendre que le logement HLM n'est plus destiné à assurer le logement des prolétaires, puisqu'on se rend compte à ce moment-là qu'il n'y a plus de construction HLM et que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir y accéder. Et notamment, j'ai envie de quand même préciser qu'il y avait aussi la question des étrangers, des émigrés ou des gens d'origine étrangère qui avaient de plus en plus de mal à accéder donc au HLM ou sinon dans des quartiers complètement dévalorisés, dans des logements plus ou moins déjà complètement pourris. Donc, pour dire si là on voit apparaître le développement des hôtels meublés qui deviennent des hôtels sociaux chargés de contrôler une main d'œuvre devenue mobile du fait de la tendance à la précarité et à la déqualification, déréglementer les contraintes de qualité dans la construction de logements. Il y a l'apparition des baux glissants pour augmenter la pression sur les habitants et limiter les impayés. Voilà, ce qui était intéressant, je trouve, là, de dire, c'est que à un moment aussi, il y a une volonté de la part de certains collectifs de se battre pour le droit au logement, c'est-à-dire avoir une politique offensive pour créer un rapport de force, pour imposer le logement, le droit au logement, la construction de nouveaux HLM, etc. Et de pointer justement du doigt et la spéculation. C'était l'époque aussi en 80 des incendies. Ça a continué hein, malheureusement. Et donc la nécessité de s'auto-organiser loin des calculs politicards de certaines associations pour faire valoir donc ce droit aux logements sociaux. Et qu'on a vu apparaître donc plutôt des associations. Souvent, il y avait le MRAP, il y avait d'autres gens qui sont venus, et Emmaüs, qui est quand même très partie prenante avec les institutions, qui venaient, au lieu de poser la question du logement en termes politiques, le poser en termes de charité, c'est-à-dire, voilà, on connaît la situation, c'est très difficile, donc on va se contenter de ce que l'État veut bien nous concéder, c'est-à-dire la précarité du logement et la précarité du travail, celle que tu décrivais tout à l'heure, et là, la précarité du logement. Voilà. Et le texte finit en disant, en effet, le simple maintien des acquis sociaux passe par la construction d'un rapport de force global contre une bourgeoisie qui ne cédera partiellement que si elle est menacée dans sa propre existence. Quant à la résolution durable et globale des problèmes de logement, il faut envisager la fin de l'exploitation. Donc effectivement, de toute manière, le combat, on sait qu'il est long, que ce soit sur la question du travail, la question du logement, et qu'il n'y a qu'une rupture de système hein, un changement radical de système qui pourra voir de toute manière la question se résoudre. Mais en attendant, il faut poser les jalons, commencer à se battre et surtout ne pas intégrer dans les luttes la question déjà perdant, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire merci de nous donner des miettes, vous êtes vraiment trop sympa, mais d'être plutôt sur une position offensive en essayant de créer des rapports de force pour essayer d'arracher nos droits. Alors sur la question des droits, on en parlait. Là, c'est pas la question là, c'est des droits acquis par la lutte. C'est pas demander des espèces de droits abstraits comme si
le droit opposable, par exemple.
Ouais, comme le droit opposable qui est absolument pas en plus appliqué, parce qu'on sait très bien et l'histoire nous l'a toujours montré, c'est que tout ce qu'on a pu avoir, c'est de fait de haute lutte et jamais l'État, jamais les patrons, jamais les possédants ne nous ont jamais rien concédé en dehors des luttes. Et ça, c'est une chose vraiment qu'il faudrait, parce que c'est marrant, parce que là, on est vraiment dans une logique aujourd'hui, où il y aurait des droits, alors on ne sait pas trop, les droits de l'homme, des droits abstraits, et mais c'est pas normal, mais il faut bien se le dire, c'est que toutes ces choses ont été acquises, ont été gagnées grâce aux luttes, et qu'à partir du moment où les luttes refluent, eh ben, les conditions de vie se dégradent.
Moi j'ai l'impression que ce que tu décris pour le logement est assez montre bien ce qui s'est passé sur un ensemble de choses qui vont bien au-delà du logement. On l'a vu pour le travail, mais ça touche un peu l'ensemble des domaines de la lutte, des luttes sociales. Mm-hmm. Parce que à cette époque-là, je dirais entre la moitié des années 80 et la moitié des années 90, on a assisté à une véritable transformation culturelle dans l'ensemble des milieux militants au fur et à mesure que les rapports de force se modifiaient, en faveur des patrons évidemment. Et du coup, au lieu de lutter comme ça s'était passé en bonne partie, par exemple tout au long des années 70, contre l'exploitation, un peu ce que tu disais tout à l'heure, et de voir toutes les différentes conquêtes concrètes qu'on allait arracher comme simplement le produit d'un rapport de force qui était par la suite inscrit dans la loi, dans le juridique, dans les textes, comme l'enregistrement d'un rapport de force favorable aux classes exploitées, eh ben, il y a cette modification qui fait que on ne se bat plus contre l'exploitation, on se bat juste pour donner un petit coup de pouce aux exploités. Que ça soit dans le logement, que ça soit sur les questions du travail, que ça soit à l'intérieur de la relation salariale, la remise en cause de l'exploitation n'est plus là. Et à la place, qu'est-ce qu'il apparaît ? Il apparaissent des droits abstraits qu'il faut inscrire dans la loi, pour lesquels on se bat avec des moyens très médiatiques en général. On médiatise les luttes à la place de chercher à faire mal au patron. On met en scène nos luttes. On fait des grandes occupations, on fait des choses, des grandes manifestations, des trucs comme ça. Mais tout ce qui faisait mal concrètement au portefeuille des patrons, eh ben ça, on le voit de moins en moins. Évidemment, il y a dans tout ça une dégradation des rapports de force. Mais il n'y a pas, dans les milieux militants, un regard lucide sur cette dégradation des rapports de force. On nous présente comme une espèce d'avancée culturelle cette mise en place de la lutte pour les droits, les nouveaux droits. On n'arrête pas de parler de nouveaux droits que d'ailleurs...
Mais sans jamais les énoncer d'ailleurs. Hein.
Oui, non, mais ce qui est paradoxal est que parfois il suffit de les énoncer et de les affirmer pour considérer carrément qu'ils sont là. Mm-hmm. Et ensuite, on s'occupe quasiment pas du nécessaire d'apport de force qu'il faut mettre en place pour obtenir et grappiller quelque chose, pour que ça corresponde à quelque chose de concret.
Non, puis oui, pardon, mais on confine à l'absurde hein, aussi. Hein, c'est-à-dire que, pour revenir sur le droit opposable, ça aboutit à quoi ? À faire condamner l'État. On va me dire, c'est super, j'ai réussi à faire condamner l'État. Donc c'est, il y a des jugements comme ça. Seulement, une fois que vous avez condamné l'État, bah, les choses s'arrêtent là. C'est-à-dire que ni la municipalité, ni les pouvoirs publics ne sont en mesure d'appliquer réellement, c'est-à-dire de réquisitionner, de bloquer les loyers, de mettre une vraie politique publique en œuvre qui
ferait que... dans le sens qu'ils ne le veulent pas.
Ils ne voilà, le veulent pas, et pourtant, ouais. ils sont condamnés.
Ils les voudraient, d'ailleurs.
Voilà, et voilà. Et oui, alors,
on ne va pas faire de la peine.
Alors,
oui. Oui, mais moi je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, aussi bien Nadia que Gianni, parce que, bon, je suis d'accord pour l'évolution telle que vous la décrivez, mais le problème c'est que je suis pas tout à fait convaincue que enfin, vous avez l'air... Enfin, Nadia, tu avais l'air de dire, en gros, l'autre courant, c'est parce qu'en fait, il avait envie de faire confiance à la gauche, c'est parce que, enfin, et il n'avait pas envie de poser le problème de l'exploitation. Et Gianni, tu nous renvoies au fait qu'il faut, il faut poser le problème, il faut faire mal au patron. Mais quand il s'agit de lutte sur le logement, je veux dire, faire mal au patron, c'est compliqué quand même.
Hein, faire mal aux propriétaires.
Les propriétaires, ça s'appelle.
Non, mais
alors donc, je reviens. Moi, je pense qu'il faut introduire un autre élément pour comprendre l'évolution dans tout ça. Parce que la position du DAL, elle avait aussi sa logique, si tu veux. D'une certaine manière, il vaut peut-être mieux une petite victoire concrète et pas plutôt que
mais elle n'a
chose.
Pas eu lieu, c'est
oui.
Ça le truc.
Oui, elle a eu lieu. Si tu les entends, ils vont te dire nous on a quand même recasé des gens, on a quand même relogé des gens, etc.
Dans quelles conditions?
Je crois que ce qui ne s'est pas vu au moment où ces choses se sont jouées, c'est qu'effectivement il y avait une espèce de basculement. Il y a eu à travers tout ça une espèce de basculement. Je veux dire, dans le traitement, c'est dans ces moments-là qu'on a commencé effectivement à passer dans la logique du traitement, traitement du pauvre, traitement des exclus, traitement d'exclusion. Je veux dire qu'insensiblement, dans ces moments-là, on a commencé effectivement à accepter, je veux dire, l'existence d'une catégorie de la population qui ne faisait plus partie dire de ce qu'on peut appeler le socle de la solidarité institutionnalisée hein, parce que moi je parle pas de la solidarité dans des luttes la solidarité telle qu'elle s'était construite disons la fin de la dans l'après-guerre sur des principes de redistribution organisés de façon paritaire sous le chapeau de l'État certainement mais en tout cas je veux dire dans une conception où l'ensemble de la population est concernée. Je veux dire, la solidarité se joue par des mécanismes de redistribution pour tout le monde. Mais alors, quelle aurait pu être la réponse ? Parce que moi, je pense que dire qu'il faut mettre en cause l'exploitation dans son ensemble, c'est pas quand t'es dans une lutte concrète. Je veux dire, c'est pas une réponse. Tu vois ? Parce que dans ce cas-là, tu dis, bah, tu renvoies effectivement à un futur qui est toujours, on ne sait pas où il est. Mais moi, le sentiment que j'ai eu, si on prend l'exemple que tu donnes sur la question du logement, c'est qu'en fait, il aurait fallu pouvoir monter le niveau de l'affrontement, je veux dire mener une lutte plus décidée, je veux dire plus dure et surtout plus dure, je veux dire sur la base du fait que les gens concernés s'auto-organisent, se prennent en main le plus possible,
aillent des HLM, des logements
oui, de façon,
vides, prennent
oui,
des logements
de façon
qui
beaucoup
sont
plus offensive. Et ça c'est un phénomène. Je veux dire c'est un passage qui s'est pas fait ou si c'est peu fait, mais c'est vraiment de mon point de vue c'est aussi une question culturelle, tu vois, parce que j'ai l'impression que si tu veux, dire, les militants ont été aussi héritiers d'une façon de se battre où les choses, si tu veux, sont quand même menées par
des spécialistes,
par des spécialistes, par un groupe dirigeant, par etc. Et là, quand les choses deviennent plus dures, je veux dire, quand l'affrontement, je veux dire, avec l'exploitation et les conditions de vie deviennent plus dures parce que le capitalisme devient plus dur, je veux dire, il n'est plus prêt à faire, je veux dire, à jouer jouer, ce n'est pas le long terme, mais en tout cas...
Arrondir les angles.
Bon, quand ils changent les règles du jeu de façon plus dure pour les exploiter, dire, bah, il faut monter le niveau de la riposte, et ce niveau de la riposte, de mon point de vue, je veux dire, il ne peut se faire que si les gens, si effectivement, à la base, je veux dire, les énergies, les intelligences se mettent en mouvement, tu vois. Et là, à mon avis... à cause sans doute du bagage culturel, je veux dire qu'on se trimballe avec nous, enfin que le milieu militant se trimballe depuis bien longtemps, je veux dire, ben c'est un passage qui n'a pas réussi à se faire. Cela dit, hein, quand même pour une petite note optimiste, je trouve que les temps commencent à changer et que peut-être on va peut-être commencer à y arriver, quoi.
Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand même aussi, si tu veux, que dans les années 80 arrive cette idée que le capitalisme est indépassable et qu'il faudra juste essayer de faire une meilleure répartition de un peu, mais en tous les cas sans changer les règles du jeu. Et je pense que c'est cette idée qui handicape. C'est-à-dire que quand tu vois qu'une situation elle est pas dépassable, tu peux que l'aménager. Et on est dans cette logique-là. Alors c'est culturel, c'est politique, c'est je sais pas, mais en tous les cas, on est dans cette logique-là qui fait qu'il y a une espèce de consensus de l'ensemble des partis politiques, des syndicats, des associations aussi qui sont souvent liées aux subsides de l'État en fonction de leur idéologie et de leur travail sur le terrain, et que tous ces gens-là sont sur cette logique-là. Et que donc, du coup, c'est vachement dur pour des gens qui ont envie de se battre, bon, déjà d'y arriver, mais en plus de pas voir tous ces vautours se pointer et venir te bousiller ta lutte, quoi, en te proposant, mais oui, mais justement, ce que tu dis, oui, mais peut-être quand même, en demandant juste ça, peut-être on l'aura, alors que vous vous demandez le bras, alors on l'aura pas, etc. La logique du DAL, c'est que depuis, je veux dire, il y a des situations complètement hallucinantes qui se sont passées. Moi, quand je pense, si tu veux, que la famille où il y a eu le feu là dernièrement à Porte de Bercy, où il y a eu énormément de morts, c'était des gens qui venaient du camp du campement qu'ils avaient organisé justement dans les années 90. On imagine le parcours de ces gens-là, passant d'hôtels meublés précaires, de logements dégueulasses, etc., pour en arriver à mourir brûlés dans un truc pourri. Je veux dire, c'est aussi cette logique-là. Alors que, putain, tu peux pas construire une vie si t'as pas un logement stable où tu sais que tu vas pouvoir rester à partir du moment où tu payes ton loyer. Bon, et après même, on peut discuter sur la question quand tu peux plus payer ton loyer, comment tu fais. Je veux dire, mais d'avoir un logement. Alors que là, d'avoir accepté le fait que, bah, du coup, quand t'avais pas d'argent, t'étais forcément précaire et qu'on pouvait pas faire autrement, ça rend extrêmement difficile la possibilité de vivre. Et que les associations aient intégré cette logique-là, et ben, ça fait qu'on n'a pas, de perspective, quoi. Donc c'est vraiment un réel problème. Et c'est sur cette question-là, mais c'est sur l'ensemble des questions. Et c'est vrai que, je veux dire, il faut faire en fonction du rapport de force et en fonction de la situation. Mais il faut savoir toujours vers quoi on se bat. Il faut toujours avoir des perspectives beaucoup plus larges, beaucoup plus à long terme. Sans ça, t'as effectivement toujours que des miettes. Bon, et là, on vient quand même de sortir d'un mouvement quand même qui aurait pu, on va dire, donner, être plus prometteur. Bien sûr, la retraite, c'est pas le délire parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas accès, qu'il y a déjà on voit des personnes du troisième âge qui, des retraités qui vivent pas bien avec leur maigre retraite, que beaucoup de gens n'accéderont pas à la retraite parce qu'ils n'auront pas leurs annuités. Donc déjà, c'était pas une lutte, on va dire, géniale, quoi, tu vois. Mais même sur cette situation, même sur cette réalité-là, je veux dire, avec autant de personnes mobilisées dans la rue et d'accord sur un mot d'ordre commun qui était non, la réforme, elle doit pas passer. Je veux dire, même là, on n'a pas été en capacité, je dis un nous collectif, puisqu'on y était un peu tous dans la rue et qu'on était contre cette réforme, on n'a pas réussi à la foutre à la poubelle, quoi.
Sur la difficulté à se mobiliser, il faut quand même dire qu'on est, on est quand même on est une population qui voit son niveau de vie baisser. Et finalement, les trois quarts des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de sortir la tête hors de l'eau. Et donc, effectivement, on a un problème de pour se fédérer parce que effectivement il y a une éducation, il y a des gens qui ont eu des conditions de vie qui étaient tout à fait acceptables jusqu'à maintenant et qui commencent à avoir du mal à se mobiliser pour d'autres personnes qu'eux-mêmes. Donc on a ce phénomène-là. Maintenant sur la lutte des sans-papiers, moi je trouve que c'est une lutte exemplaire puisqu'on a, ça nous rappelle les luttes peut-être qu'il y a eu au 19e siècle puisqu'on a des gens qui sont dans une précarité totale, qui n'ont pour le coup aucun droit, qui n'ont même pas le droit d'avoir des conditions de logement décentes et pourtant qui ont été capables d'avoir un mouvement qui était relativement uni. Revendicatifs, alors qu'ils avaient tout à perdre.
Et qui ont arrêté leur grève et qui ont cédé leurs locaux sans beaucoup. Enfin, tu vois, je veux dire, je trouve que là, pour le coup, peut-être les centrales syndicales ou les gens qui les soutiennent n'ont pas été de super bons conseils, quoi. Enfin bon.
En tout cas, ils ont quand même réussi, bon,
à tenter,
hein, de
ils sont
voilà,
mobilisés,
ils sont,
hein.
Voilà, ils se sont mobilisés au moins. Mm. Bon, d'accord là-dessus.
Moi, je voudrais faire juste un tout petit pas en arrière, revenir à la question de cette transformation qui a eu lieu dans les rapports de force et dans les cultures politiques des milieux militants, dans les années, disons, entre la moitié 80, moitié 90. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on a un changement épocal qui se produit. C'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'Union soviétique et la fin des modèles politiques, quelque part, sauf chez quelques partis trotskistes ou maoïstes qui encore survivent quelque part sur la planète. Mais c'est le modèle du parti qui se voit remis en cause. Et avec tout ce qui trimballe de délégation, de représentation de la part des exploités vis-à-vis de ceux qui sont censés être dans l'essence de l'histoire. Ce qui se produit à ce moment-là, chez nous, c'est qu'il y a des tas de gens qui, à mon avis, ont plein de bonnes intentions. Hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause leur bonne foi ou des trucs comme ça, mais qui récupèrent en quelque sorte à leur compte cette idée de la représentation des exploités, et ce n'est plus un parti, mais ce sont des experts. Mmh. Ceux qui parlent en leur nom, qui savent, parce qu'ils connaissent le droit, parce qu'ils connaissent la situation, parce qu'ils ont des idées plus claires, parce qu'ils sont
bien parlé,
pour toutes,
ont fait des grandes
pour toutes
études,
les raisons diverses et variées qu'ils peuvent, parce qu'ils sont généreux, parce qu'ils savent s'organiser, parce qu'ils ont des bonnes relations avec les institutions souvent, parce que les institutions donnent quelque chose à gérer quelque part, des formes de conflictualité qui pourraient devenir ingérables s'il n'y avait pas quelqu'un qui de fiable pour les gérer, etc. Bon, il y a tout cet ensemble de choses, de jeux de rôle qui se met en place et qui fait que on arrive à la situation actuelle. Ça, je crois qu'il faut pas l'oublier. C'est un ensemble de choses qui se jouent à l'échelle de l'histoire, mais il y a aussi des conséquences pratiques, concrètes, dans le mode de fonctionnement des luttes, dans l'imaginaire des gens, dans l'imaginaire des militants, dans les formes d'organisation, et ça nous amène justement jusqu'au moment où la crise commence à creuser et à accélérer vachement la situation, et où sans doute des nouvelles formes d'organisation vont voir le jour.
Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est surtout la fin, c'est-à-dire que la crise arrive. Alors pourquoi la crise arrive? Je veux dire, on est revenu
dans un état de crise permanente là. Ouais,
c'est vrai, mais on est revenu quand même sur une économie de la rente. Bon, on parlait des loyers. Je sais pas, c'est Marx disait que le capitalisme vivait des intermédiaires. Vous avez qu'à avoir n'importe quel propriétaire aujourd'hui, et vous avez compris que c'est lui l'intermédiaire de l'exploitation. Hein. C'est lui qui vit sur son loyer pour compléter ses revenus, ou voir qu'il y a plusieurs appartements, ou voir qu'il ne vit que de ça. Et ça, c'est quand même lié à ce retour de la spéculation et de la spéculation sur l'immobilier. On est rentré dans une économie qui est purement spéculative, enfin qui est après donc la bulle Internet, on a eu la bulle de l'immobilier. Il fallait pas être grand clair pour savoir que la bulle éclatait. Et ce capitalisme-là, il faudrait pas croire qu'il n'a pas de fin. Je veux dire au sens où il n'est pas, ce n'est pas un capitaliste productiste, productiviste ou qui produit quelque chose. Hein. C'est un capitalisme qui vit effectivement des autres, de la personne qui est en bas, c'est-à-dire qui fait payer au consommateur la note de gaz, qui fait payer au consommateur le loyer, qui fait payer aux travailleurs la crise. Et effectivement, on rentre peut-être dans autre chose. On mettra peut-être du temps, mais il faut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, les conditions de vie soient peut-être encore plus difficiles qu'elles ne sont aujourd'hui. Et que les nouvelles formes, qu'on sorte du happening permanent que représentent les journaux télévisés ou n'importe quelle cause est médiatisée et ne représente que la personne qui parle, pour arriver à peut-être d'autres formes d'organisation collective différentes.
J'avais juste envie de parler de l'organisation collective vite fait. C'est que je trouve qu'à juste titre, la question de l'organisation a été critiquée parce que souvent, c'est vrai que les partis politiques ou des formes d'organisation ont été autoritaires, spécialistes, hiérarchisés, etc. Et que à juste titre, il est tout à fait bon de se méfier hein, des dirigeants, des partis. C'est plutôt une bonne chose. Mais pour autant, en revenir à l'individualisme et à l'isolement n'est pas non plus, et c'est ce qu'on vit depuis pas mal d'années, on se rend bien compte aussi que ça aussi ça a des limites, c'est-à-dire l'individu roi, la personne, etc. Donc peut-être faudra-t-il très certainement se poser la question de l'organisation, quel type d'organisation, comment elle fonctionne pour en revenir à être capable de créer enfin un rapport de force qui puisse faire basculer l'ordre des choses avec un programme et des projets clairement compris et faits par le plus grand nombre.
Ouais, moi je voudrais dire à ce sujet que je pense que quand même déjà on a des débuts de réponse de quelque chose, parce que quand tu dis l'individualisme prégnant comme ça, moi je trouve que les choses ont déjà commencé un peu à changer. Et je trouve que dans ce mouvement de l'automne, malgré tout ce que tout l'encadrement syndical qui a verrouillé ce truc-là de manière assez intelligente, et bon, malgré tout ça, je veux dire l'ampleur de ce mouvement dit quand même quelque chose. Je crois que ce qu'il dit, moi, ce que je ressens, c'est qu'il dit qu'on a envie de faire des choses, de sortir justement, si tu veux, de cet affrontement strictement individuel avec la mauvaise fortune. Je veux dire que effectivement il y a un besoin de se battre collectivement, et je pense qu'il y a toute une partie de la population qui a quelque part exprimé sous une forme ou sous une autre ça en manifestant. Et je voulais dire aussi que ce qui se passe actuellement en Tunisie et peut-être en Égypte, enfin qui est en train de se passer peut-être en Égypte, je veux dire quelque part pour nous aussi ça ne concerne, c'est pas seulement des pays, ce sont pas des pays, tu vois, qui enfin vont accéder à la démocratie que nous avons depuis si longtemps.
Non, visiblement ils sont pas trop branchés. Ouais.
Je veux dire, le problème de la démocratie c'est un vrai problème, hein.
Mais
ce qui est quand même très intéressant dans ces mouvements, c'est qu'il y a une espèce de fusion entre les revendications sociales, je veux dire quelque chose qui touche aux conditions de vie, et quelque chose qui touche à la nature politique du système, et que ces deux choses, on s'en aperçoit de plus en plus à travers ce mouvement, qu'effectivement ces deux choses sont effectivement étroitement associées. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'effectivement elles sont pas dissociées. Et moi, je trouve que ça devrait nous donner aussi des idées, parce que je veux dire, de quelle démocratie parle-t-on chez nous ? Je veux dire, on n'est peut-être pas dans une dictature, mais il me semble que parler d'oligarchie, c'est que ça commence à devenir une idée quand même bien bien répandue. Je dirais que on pourra pas se battre, je veux dire, sortir des questions matérielles, de la question de la pauvreté, sans poser aussi le problème de la nature politique du régime dans lequel on vit. Voilà.
Eh ben, on va finir là-dessus.
Allons regarder ce qui se passe du côté de la Tunisie pour chercher
peut-être
la pêche.
Ouais. C'est clair que c'est là que ça se passe pour avoir la pêche. Bon, bah voilà, ça se clôture sûrement au mois prochain. Au revoir à tous.
Bonsoir.
Et à toutes.
Salut.
Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun. Bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la...